Vous écoutez
RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Virginie Fulpin, Victor Fourchet.
Il est 4h55, bon réveil à l'écoute d'RMC. Bienvenue dans le morning, on est ensemble jusqu'à 7h. Vous en avez l'habitude désormais en ce vendredi. Allez, de départ en vacances, on va en parler. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Victor, bonjour à tous.
Et bonjour Anthony Kazmarek.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Avec vous aussi, on a pas mal de choses à dire dans le ciel ce matin. Et aujourd'hui, on va vous accompagner peut-être un peu plus longtemps que d'habitude.
J'étais sur la route. La fin de journée, je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer.
Et pas n'importe quelle route, celle des vacances. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des départs. Ça concerne l'est de la France et l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais le reste du pays est aussi en orange. Et puis demain, c'est rouge partout.
Est-ce que c'est l'heure du grand départ pour vous aussi, on l'espère? En tout cas, vous fermez peut-être les valises, vous êtes en train de blinder le coffre. Peut-être même déjà à la première pause café sur l'aire d'autoroute, si jamais vous préférez partir la nuit. Prenez quelques petites minutes et venez nous raconter votre programme. De toute façon, vous le savez, il faut s'arrêter régulièrement. Toutes les deux heures, la pause s'impose. Hein,
c'est ça. On en parlera dans les journaux parce que la Fondation Vinci Autoroute alerte sur les risques d'endormissement au volant. Tiens, professionnels de la route, venez nous dire au 32-16 si vous en voyez de plus en plus de ces gens qui manifestement ont du mal à tenir ou ont des comportements dangereux. Vous pouvez aussi nous donner vos conseils. Hein. C'est vous les pros. On est preneurs au 32-16, évidemment.
Prudence aussi face aux orages, on y reviendra avec Anthony bien sûr, on a vu des images très impressionnantes, notamment de cette tornade à Saint-Étienne. Il n'y a pas de blessés à déplorer, mais les pompiers ont eu une nuit très agitée, il y a pas mal de dégâts. Vous aussi, peut-être si vous êtes de la région, vous pouvez nous dire, nous raconter ce qui s'est passé, vous composez le 32-16 et on va prendre de vos nouvelles.
Retour de la pluie, aubaine pour des agriculteurs et les terres desséchées. Agriculteurs dont le syndicat majoritaire, la FNSEA, se frotte les mains. On connaît désormais la forme finale de la loi agricole. À l'intérieur, il y a la réintroduction de deux pesticides, alors interdits en France, mais pas en Europe, et moins de réglementation sur la gestion de l'eau. À gauche, on crie à l'horreur sanitaire et au désastre écologique.
Alors, les syndicats, les politiques, tout ça, c'est très bien. Mais nous, c'est vous qu'on a envie d'entendre au 32-16 ce matin. Vous, si vous êtes agriculteur, pour nous dire comment vous accueillez ce texte, ou encore si vous êtes consommateur, peut-être choqué si l'on réautorise des produits interdits. On va lire aussi vos messages, bien sûr, sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Et puis, en football, c'est veille de petite finale de Coupe du Monde, France-Angleterre. Alors oui, il y a une troisième place à aller chercher. Oui, c'est la dernière de Didier Deschamps. Mais franchement, entre nous, ce match, est-ce que vous avez encore le cœur à le regarder, le suivre sur RMC? Est-ce qu'il faudrait, la supprimer définitivement, cette petite finale à l'avenir? Vos avis sont évidemment les bienvenus au 32-16 et sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Il n'y en a pas à l'Euro, par exemple, de match pour la troisième place. Allez, on oublie tout ça, on va essayer de jouer au mot caché à n'importe quel moment dans le morning. On va prononcer un mot qui sort un peu de l'ordinaire. Si jamais vous l'identifiez, vous nous envoyez mot, M-O-T, par texto au 7-32-16 et vous pourrez gagner votre Coffee Bird.
Ah oui, c'est la machine expresso nomade d'Aquila que vous pouvez emmener partout pendant les vacances, en voiture pour cette journée assez chargée sur la route, en randonnée, à la plage. Elle vous servira évidemment un excellent expresso pour tenter de la remporter, cette machine Coffee Bird. Vous envoyez mot au 7-32-16, M-O-T au 7-32-16. Avant le journal de Quentin Vinet qui vient de s'installer avec nous dans ce studio. Eh bien, Anthony Kazmarek, la météo, et on en parlait avec ces orages, ces risques d'orages aujourd'hui.
Oui, orages qui ont été violents hier, ça va se calmer un peu aujourd'hui, mais le risque existera encore, notamment cet après-midi sur le Grand Est, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, le Limousin, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a déjà quelques impacts de foudre ce matin sur la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Touraine. Donc, à surveiller. Pour l'instant, la vigilance est jaune sur la carte de Météo France. On verra tout à l'heure ce qui se passe à 6h. Et puis ailleurs, sinon, ce sera un temps qui va alterner entre nuages et éclaircies. Ce sera même très ensoleillé sur le Finistère, le Boulonnais et surtout dans tout le quart sud-est où Mistral et Tramontane vont à nouveau souffler et malheureusement renforcer le risque de feux de forêt. Les températures, elles, continuent à baisser, 3 à 8 degrés de moins qu'hier et il fera quasiment partout moins de 30 degrés cet après-midi, sauf dans le sud-est où d'ailleurs la canicule va se poursuivre avec là dans ces régions du sud-est 31 à 36 degrés.
réveil à tous dans le Morning d'RMC, il est 5h.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, le dénouement sans doute dans l'affaire Jubilard.
Des ossements retrouvés hier dans le Tarn par les enquêteurs à l'endroit où Cédric Jubilard dit avoir enterré le corps de son épouse il y a presque 6 ans. On va y revenir. Les dégâts des orages, une tornade a couché 2 camions hier soir, c'était au nord de Saint-Etienne. Et l'équipe de France de football qui est arrivée à Miami hier soir à la veille de la petite finale contre l'Angleterre.
C'est un mélange de stupeur et de soulagement ce matin dans le village de Cagnac-les-Mines.
Vous savez que c'est là qu'habitait le couple Jubilard et c'est à une dizaine de kilomètres qu'ont donc été retrouvés des ossements dans un champ, de fémurs, peut-être bien ceux de Delphine Jubilard, puisque c'est Cédric Jubilard qui a indiqué l'endroit aux gendarmes en expliquant y avoir enterré le corps de son épouse après la disparition de l'infirmière il y a presque 6 ans. Il reconnaît avoir commis, indiquent ses avocats, un crime abominable, comme nous l'explique Pierre Bazin, l'envoyé spécial des RMC dans le Tarn.
À Cagnac-les-Mines, l'annonce de la découverte des ossements a secoué le village et ses habitants, notamment ceux qui ont participé aux toutes premières recherches, comme Jean-Louis Barrault, le premier adjoint. Il a été d'autant plus surpris qu'il connaît très bien l'endroit où les os ont été retrouvés.
Nous, on y est passé X fois. Ça me pensait qu'il y aurait encore enterré là, quoi, dans ce bord de bois où il y a une vieille maison en ruine. Jamais de la vie.
Près du domicile familial où demeurent des fleurs, des petits mots et le portrait de Delphine, Christophe, un voisin, confie sa stupeur face à ces nouveaux éléments. Hier, le quartier s'est emmuré plus encore dans le silence.
Dans le voisinage, on ne parle pas. Il est temps que ça se termine. Il y a eu plein de rebondissements, de mensonges et de trahisons aussi envers la population gagnacoise qui a fait des recherches en 2020 pour retrouver le corps. Donc, qui disent enfin la vérité.
Une position que partage le maire de Cagnac-les-Mines. Patrice Norkowski espère que les dernières investigations permettront de refermer une plaie restée béante bien trop longtemps.
C'est vrai que ça a bouleversé la commune, hein, même moi-même, hein, puisque bon, je connaissais la famille. Je crois qu'on en a tous besoin d'avoir un dénouement de l'histoire, quoi, ça c'est clair.
Avancer et tourner la page, nous disent certains habitants, en espérant que l'affaire ne connaisse pas un énième rebondissement.
Autre affaire ce matin, la mort de Liana fin mai dans le Gers et ses conséquences. Un deuxième rapport d'inspection pointe des délais manifestement excessifs et, je cite toujours ce rapport, un manque de moyens dans l'enquête sur de précédentes accusations de violences sexuelles visant le mis en cause Jérôme Barella. On savait qu'on sous-traitait les affaires de violences sexuelles sur mineurs. Ça, c'est ce que dit ce matin la procureure générale de la Cour d'appel de Lyon, parmi toutes les voix qui s'élèvent en ce moment après réexamen de quelques 70 000 procédures.
Il est 5h02 sur RMC. Les orages ont fait des dégâts dans la soirée.
Notamment dans la Loire, où une tornade a traversé l'autoroute A72, couché 2 camions et abîmé des bâtiments au nord de Saint-Etienne, nous raconte cet habitant.
J'ai vu toutes les tôles du magasin s'envoler, partir sur le parking de l'hôpital. Puis je voyais mon toit, avec le vent, ça levait toutes les tuiles, tout ça. L'arbre rouge que j'avais, là, on ne voit plus qu'un petit morceau. L'arbre, c'est carrément couché et tout. Pour coucher l'arbre presque au sol, ça soufflait fort. Hein. Ça fait peur. Des tempêtes comme ça fait peur.
600 interventions de pompiers recensées et 8000 foyers sans électricité ce matin, c'est ce que nous dit la préfecture.
Une tornade à Saint-Etienne et vous y étiez peut-être hier, vous habitez dans le coin, vous nous appelez au 3216, vous nous racontez ce que vous avez vu, vous faites le point avec nous ce matin aussi sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
C'est dans ce contexte de dérèglement climatique que députés et sénateurs sont mis d'accord hier soir sur une version commune du projet de loi d'urgence agricole que le gouvernement avait promis pour avant l'été. Ils ont convenu de réintroduire 2 pesticides interdits et de revoir à la hausse aussi la question du stockage de l'eau. Et en attendant le vote définitif la semaine prochaine, Sonia Gobry du service politique à RMC, le gouvernement et le camp présidentiel sont critiqués de toutes parts.
Désastre écologique, horreur sanitaire, à gauche les qualificatifs ne manquent pas. Parmi les mesures crispantes, la réintroduction de 2 insecticides interdits en France, le flupyradifurone et l'acétamipride, mais seulement si l'Agence nationale de sécurité sanitaire accorde une dérogation. Comme ça, la science décidera, défend un député LR. Garde-fou insuffisant, rétorque un écologiste. Alors dans cet hémicycle polarisé, les regards se braquent sur les députés du Bloc central, Horizon, Modem, Macroniste, droite et gauche, les sommes de se positionner. Franchement, lundi, leur vote sera décisif. Mais le Bloc central est divisé et embarrassé par la question des pesticides. Feront-ils la politique de la chaise vide, s'interroge une insoumise quand une députée socialiste met la pression. À 9 mois de la présidentielle, dit-elle, pas de place pour la lâcheté.
Une des infos de la soirée, le maire d'Alès dans le Gard a reçu 2 balles de calibre 9 mm dans sa boîte aux lettres. Elles étaient signées, en quelque sorte, des narcotrafiquants de la DZ Mafia. Une enquête, évidemment, est ouverte. L'autoroute A6 6 à nouveau ouverte en Seine-et-Marne. Elle a été coupée, vous le savez, sur toute la partie qui passe dans la forêt de Fontainebleau en raison de l'incendie. Bonne nouvelle en ce vendredi de départ en vacances, classé orange au niveau national et rouge dans la moitié est.
Et les vacanciers croiseront à partir d'aujourd'hui des CRS à La Baule en Loire-Atlantique.
Oui, ils arrivent en renfort à partir d'aujourd'hui après des incivilités et même après une grande rixe. C'était dans cette cité balnéaire, c'était durant le week-end de la Pentecôte. Et alors, la venue de ces CRS, partage les habitants, nous dit sur place notre correspondant Martin Lange.
Christophe est gérant d'un restaurant de plage face à la mer. Entre les services, le bar, la caisse, il doit aussi gérer le comportement de certains vacanciers.
Quelques incivilités, on fait un peu la police pour protéger un petit peu notre restaurant.
Il se réjouit donc de l'arrivée de cette compagnie de CRS.
Ah bah oui, c'est un renfort, puis c'est un peu leur métier, parce que nous on est surtout là pour servir les gens, on n'est pas trop là pour les réprimander. Quand ils se montrent, c'est vrai que ça calme un peu tout le monde.
Sur le remblai, face à la mer, la majorité des passants approuvent cette présence. Pierre vient en vacances à La Baule depuis plus de 40 ans.
Ils peuvent rassurer les gens, et puis le fait de les voir va faire que ces jeunes vont peut-être se comporter différemment.
D'autres émettent des réserves, à l'image de Félix, pour qui des CRS n'ont rien à faire dans une station balnéaire.
Ça envenime plus la situation que ça l'appelle. Il y a déjà la police municipale qui sert de police de proximité. Je pense pas que déployer même des CRS ce soit vraiment nécessaire.
Mais pour le maire, Franck Louvrier, ce renfort est vital.
Quand vous avez une ville qui est multipliée par 10 en nombre d'habitants, il est normal qu'on puisse avoir des forces en plus, sinon c'est pas possible. Les CRS, c'est pas que de l'ordre public. Les CRS, c'est aussi de la présence policière au quotidien.
Le maire espère également pouvoir bientôt investir dans des drones pour surveiller ces 8 km de plage.
Alors des CRS en bord de plage, au bord de la mer pour sécuriser les lieux, est-ce que c'est excessif? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que c'est justifié? Vous nous le dites au 32-16. Venez nous dire aussi si vous êtes sur la route des vacances ce matin. On le disait, va y avoir du monde sur les routes aujourd'hui à destination des stations balnéaires. Notamment été oblige. Vos avis, vos histoires, vos témoignages sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et les Bleus ont fait leurs adieux à Boston.
Oui, ville où ils avaient installé leur camp de base qu'ils ont quitté pour Miami, où ils sont arrivés dans la soirée. Ils étaient censés avoir quartier libre d'ailleurs à Miami, mais ça a été annulé pour que tout le monde reste bien concentré avant la petite finale de demain soir contre l'Angleterre, même si c'est vrai qu'elle tombe mal. Moins d'enjeux, un samedi soir à 23h. Pas sûr que les bars attirent autant de monde que lors des derniers matchs. C'est ce que vous nous dites à Paris, David Alias.
Si le mondial n'est pas encore totalement terminé pour les Bleus, il l'est pour certains supporters qui n'allumeront pas leur télévision demain soir.
Trop tard, c'est à 23h. En plus, là, je suis en vacances sur Paris. On va pas regarder le match.
J'espère qu'ils vont faire un brustage, tout. En plus, ça va être contre les Anglais. Et je pense que je vais moins suivre ce dernier match.
Pour d'autres, comme Roman et son frère Aubry, ce match sera l'occasion d'encourager une dernière fois les Bleus et leurs sélectionneurs.
Pour faire jouer les mecs qui n'ont pas joué, qui étaient là sur tout le mondial, qui ont participé à l'aventure.
Une des seules raisons pour laquelle je vais suivre le match, c'est parce que c'est la dernière de Deschamps. Pour tout ce qu'il a fait pour notre sélection, ça serait beau que l'équipe gagne ce match pour lui rendre hommage.
Même si ce dernier aurait préféré ne pas affronter l'Angleterre.
Ça aurait été France-Argentine à 23h le samedi soir, même la petite finale, même la troisième place. Je pense que j'aurais été dans ma télé sacrément concentré et comme une grosse partie de la France, je pense.
Serveuse, Julia s'attend tout de même à accueillir de nombreux supporters des Bleus demain soir pour suivre la rencontre.
Oui, je pense qu'il y aura du monde parce que ça reste la France qui joue. C'est la dernière victoire qu'on espère avoir.
Comme ici, d'autres établissements diffuseront la petite finale avec l'espoir de voir Kylian Mbappé et sa bande finir sur une bonne note.
Et l'euphorie retourne, on l'entend bien, la ville de Toulon, par exemple, dans le Var, annonce que finalement, la finale dimanche soir ne sera pas diffusée sur écran géant, c'est annulé maintenant que les Bleus ne sont plus en compétition pour la finale.
Et pourtant, peut-être que ça vous intéresse malgré tout, cette petite finale. Bon, c'est qu'une troisième place, c'est qu'un match pour le podium, mais c'est tout de même pas mal. Est-ce que vous allez le regarder, ce match, ou est-ce que vous êtes encore dans la déception et que finalement, on va écouter sur RMC d'une oreille, on va essayer de suivre le match, la dernière de Didier Deschamps. Vous nous dites, votre état d'esprit, avant cette petite finale au 32-16.
Bon, par contre, il ne faudra pas louper l'intégral tour cet après-midi sur RMC, 13e étape du Tour de France. C'est la plus longue du Tour de France, 206 km entre Dole et Belfort, avec le ballon d'Alsace comme juge de paix à 30 km de l'arrivée. Hier, c'est le Belge Tim Merlière qui a remporté à Chalon-sur-Saône une troisième victoire d'étape au sprint.
Merci Quentin Vinet, prochain journal sur RMC. Ce sera à 5h30, mais d'ici là, un détour par le 32-16 pour retrouver Alex. Bonjour Alex.
Bonjour Alex.
Bonjour tout le monde.
Qui nous appelle, alors normalement de Bègles, mais comme vous êtes chauffeur, j'imagine que vous êtes peut-être sur la route ce matin ?
Oh, depuis un bon moment, là, ça fait 3h30, mais je suis arrêté. Oui, je suis à côté de la route.
Sécurité avant tout. Alors, vous l'entendiez, c'est pour ça que vous nous avez appelé. Est-ce que vous avez des petits conseils ? La Fondation Vinci Autoroute nous alerte sur le risque d'endormissement. Vous êtes un professionnel, dites-nous comment on fait.
Alors moi j'ai une astuce, c'est un vieux routier qui me l'avait donné, et puis elle est très très simple. Vous vous accordez 20 minutes de pause, À fermer les yeux, 20 minutes de sieste, c'est très bien. Et vous prenez un expresso serré juste avant de vous poser. Et du coup, vous avez le temps que le café fasse action, fasse effet. Et dès que vous vous réveillez, vous êtes au taquet.
Et voilà, vous mettez simplement votre réveil pour que ce soit pile 20 minutes.
Ah oui, ouais.
Vous ne laissez pas
mais maintenant, j'ai même
comme ça courir pendant deux heures.
C'est devenu un réflexe maintenant, donc j'ai quasiment plus besoin. C'est au bout d'un moment, je me dis, tiens, ça n'a pas sonné, c'est bizarre. Mmh.
Mais ce que vous nous dites, Alex, c'est intéressant, c'est qu'il faut se forcer. Parce que vous nous dites, j'ai pris le réflexe. Mais les automobilistes, alors j'allais dire du dimanche, de l'été en tout cas, ils n'ont pas forcément ce réflexe-là. Vous nous dites, il faut se l'imposer, il faut absolument le faire et il faut s'y obliger même si on ne ressent pas le besoin.
Ah oui, mais en fait, on commence à en prendre conscience quand on se rend compte qu'un accident, ça prend 30 secondes à arriver. Oui. Et j'en ai tellement vu sur la route arriver bêtement que maintenant, je prends soin de ma vie, on va dire.
Il ne faut pas se dire, bon, allez, il me reste que 100 km, c'est pas grave, je ne fais pas cette dernière pause, quoi.
Ah, mais c'est les 100 derniers qui sont les pires. Hein.
Vous êtes déjà fait vraiment très peur, Alex, notamment avec le sommeil?
Ouais, ça m'arrive. Du coup, j'ai tout le temps une canette de sécurité de Monster. Ça, c'est le produit magique.
Bah, boisson énergétique, pour les gens qui
ouais, exactement. Il y a un mois et demi de ça, j'ai eu, vu que moi, je suis beaucoup sur l'autoroute, je fais l'autoroute Bordeaux à Pau, donc, qui est la plus chère et il n'y a pas beaucoup de monde. Et je me suis retrouvé sur ma voie.
Ah, Alex, qu'on a malheureusement perdu. Ah bah ça, c'est aussi les aléas de la route. Hein. Vous savez, il n'y a pas le réseau forcément partout. On fait les pauses sur l'autoroute et parfois, il n'y a pas de réseau. En tout cas, on a compris l'essentiel. Alex, merci beaucoup pour vos conseils, pour vos astuces. Et je suis sûr que vous allez pouvoir réagir au témoignage d'Alex au 3216 et sur le WhatsApp 0612 424 424.
On retient bien le message d'Alex. Dans un instant, ça va être la solution conso avec Anthony.
Chasser le naturiste, il revient au bas galop. Réplique du film Camping. Alors, je vous y emmène.
Ah ouais, j'avais pas la ref, là, tout de suite.
C'est mon teasing préféré de la saison, je crois.
Mais avant ça, il y aura le choix de la rédaction avec Vincent Chevalier. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes le correspondant d'RMC en Auvergne-Rhône-Alpes. On va vous rejoindre pour préparer les vendanges, mais s'entraîner parce qu'elles seront sans doute en avance cette année. Hein.
Et oui, les fortes chaleurs déboussolent un peu la vigne et le raisin sera sûrement prêt encore plus tôt que l'année dernière.
Moi aussi, j'ai un bon teasing. Je pense un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Virginie Fulpin, Victor Pourchet.
Il est 5h13 sur RMC.
RMC, le choix de la rédaction.
Et le choix de la rédaction ce matin, c'est sécateur à la main. On part faire les vendanges.
Bonjour Vincent Chevalier.
Bonjour Virginie, bonjour Victor, bonjour à tous.
Alors les récoltes seront certainement encore en avance cette année avec la météo des derniers mois. Les grappes de raisin ont pris de l'avance dans leur maturité et les premiers vendangeurs pourraient donc attaquer dès début août. Une précocité qui étonne même les viticulteurs, Vincent.
Oui, accroupi au milieu de ses vignes dans les coteaux du Lyonnais, Pierre Tollet saisit une grappe sur un cep d'un cépage gamay. Une grappe multicolore, signe de la véraison, ce moment où les raisins mûrissent.
À l'intérieur de cette grappe, on a des grappes à différents stades de développement, avec justement certaines grappes qui commencent à prendre cette couleur, on va dire, légèrement bleutée, enfin violet-bleu, qui est en fait la marque que le raisin devient mature et est bientôt prêt à être récolté.
Et traditionnellement, les vendanges débutent 45 jours après la véraison, un stade habituellement attendu ici fin juillet.
Là aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près une quinzaine de jours d'avance sur une année, on va dire classique, avec la particularité cette année de subir de grosses pressions par rapport à la chaleur. Ce qui fait que le sec aussi commence à arriver gentiment, donc ça serait bien d'avoir un petit peu d'eau.
Effectivement, dans ses vignes, il n'a pas plu depuis le 2 juin.
Ah ouais, et une telle avance, Vincent, c'est du jamais vu pour la plupart de ses professionnels.
Effectivement, un Basil Ricaume peut en témoigner pour ce viticulteur du Gard. Les vendanges sont pour l'instant prévues entre le 5 et le 10 août. En 25 ans de métier, c'est la première fois qu'il assiste à une telle précocité et ça pose plusieurs problèmes.
Toute la partie logistique, pour nous, ça change parce qu'il faut prévoir, il faut anticiper. Il faut également aussi, pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre des jours de congé, partir plus tôt. Ça paraît rigolo que dit comme ça, mais c'est une vraie réorganisation dans les entreprises. Il faut préparer le matériel à la vigne, il faut préparer le matériel à la cave. Donc ça, c'est la partie logistique, mais je dirais c'est la moins perturbante. La plus perturbante, c'est ce qu'on appelle la maturité phénolique de la vigne. C'est-à-dire, est-ce que la vigne, le cycle végétatif s'est fait vite? Est-ce qu'on va arriver à avoir des raisins suffisamment mûrs pour arriver à faire des vins suffisamment qualitatifs? Est-ce que malgré cette vitesse-là, le cycle va se finir jusqu'au bout?
Et oui, car si les fortes chaleurs reviennent, les très fortes chaleurs même reviennent, la vigne pourrait faire un blocage, arrêter son évolution pour se protéger, ce qui, pour le coup, décalerait le début des vendanges.
Et ce qui rend très très difficile dans ces conditions de recruter, hein, surtout pour la main-d'œuvre, quand la main-d'œuvre se fait déjà désirer à la base.
Bah oui, dans les vignes, les habitués se font de plus en plus rares, il faut donc recruter plus. Exemple, dans le Jura, l'association pour l'emploi dans le milieu rural Soelis cherchait 450 personnes l'année dernière, contre 600 cette année. Alors seul espoir, attirer des étudiants, pas encore pris par la rentrée scolaire de septembre. Et encore une fois, beaucoup de domaines s'appuieront sur la main-d'œuvre étrangère. Dans certaines régions, elle peut représenter la moitié des vendangeurs.
Si cette année est particulière, Vincent, la précocité des vendanges n'est pas tout à fait surprenante.
Oui, effectivement, depuis les années 80, le raisin est récolté de plus en plus tôt, 30 jours plus tôt qu'il y a 30 ans dans certaines parcelles. Résultat du réchauffement climatique qui accélère le processus de développement de la vigne. Il faudra donc s'y habituer et s'adapter, selon Jean-Marc Touzard. Il est directeur de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
C'est le changement climatique plus globalement qui remet en cause les relations au terroir, et donc la relation entre un terroir et la qualité d'un vin. Et donc ça suppose de s'adapter, changer de cépage, de mode de conduite, de mode de technique de vinification, d'organisation des vignobles dans l'espace, en changeant les parcelles, en choisissant des parcelles moins exposées au soleil, par exemple.
Adaptation indispensable, car au-delà de la crise climatique, la viticulture traverse aussi une crise commerciale. La consommation mondiale de vin ne cesse de diminuer, moins 14% entre 2018 et 2025.
Merci Vincent Chevalier, on rappelle que vous êtes notre correspondant, le correspondant RMC dans la région lyonnaise. Et puis vous, si vous êtes viticulteur, venez nous parler au 32-16 de vos vignes, de la façon dont vous vous organisez pour ces vendanges qui vont être très précoces cette année.
RMC, il est 5h18. Et c'est l'heure des choix de la bande, ces infos qu'on a dénichées dans la presse. Et quand je dis on, c'est notamment Mathias Luguin. Bonjour Mathias.
Bonjour Mathias.
Bonjour à tous.
C'est la forme ce matin?
Oh bah oui, c'est vendredi.
Alors, pensez qu'on repose, ça c'est bien sûr.
Et pas n'importe lequel, 17 juillet.
Bon allez, je commence avec un grand classique, l'étude 2025 sur les prénoms donnés en France. Alors c'est une étude qui est faite par l'INSEE à partir des bulletins d'état civil, donner les prénoms en métropole et en outre-mer. Mais bon, je vous dis tout ça, mais ce qui vous intéresse vraiment, c'est le top
des
classements. Allez, côté fille, c'est Louise qui l'a emporté en 2025 avec 3070 petites filles appelées Louise en 2025. Ensuite, Jade et Ambre. On a une sorte de duo en quatrième, cinquième avec Alma et Alba. On est assez proches. Et puis ensuite, les Roses, les Emma, les Romy, les Adèle ou encore les Alice. On part côté garçon. Pas de Victor, mais beaucoup de Gabriel, avec 4625 Gabriel nés en 2025, suivi par Noah, par Léo, Raphaël, Louis, et puis les Jules, je salue mon petit frère au passage, le Arthur, je salue mon cousin au passage, je vais faire tout le classement avec toute ma famille.
Je suis la tête maintenant.
Non mais ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est la grande bataille du matin. C'est le classement du morning. Ah, et alors là, on ne rigole plus. On va partir de la fin, si vous le voulez bien, avec les Virginie. Désolé Virginie, mais zéro Virginie en 2025, oh, malheureusement.
Mais de toute façon, je perds tous mes matchs de la semaine. Donc, c'est pas compliqué. Hein.
Suivi, Mathias en troisième position. C'est pas bien glorieux non plus.
Je comprends pas pourquoi.
Anthony, pas si mal, deuxième.
Bah oui, quand même.
Et vous me voyez arriver.
Allez, c'est vous.
Qui c'est le premier?
Mais en fait, Victor n'a fait le classement que parce qu'il était le premier.
Félicitations à tous les Victor en 2025. Vous êtes 1470 et vous allez voir, on est une grande famille et c'est génial de s'appeler Victor. On vous attend aussi au 32-16. Bah oui, je vous le dis, c'est génial, on vit super bien. Vous nous dites au 32-16,
si vous appelez Victor.
Alors déjà, si vous appelez Victor, ce serait exceptionnel. Et puis, si vous avez eu un heureux événement en 2025, comment vous avez choisi le prénom? Est-ce que vous êtes dans ces classements? On veut tout savoir aussi sur le WhatsApp au 06 12 424 424.
Alors dimanche, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est la finale de la Coupe du Monde.
Oui.
Et un Français sera vainqueur. Non, je ne suis pas dans le déni, je vous promets, je ne suis pas dans le déni. C'est la Coupe du Monde des mangeurs de cancoyotes en Franche-Comté.
Ah.
Ils peuvent toujours venir nous chercher, les Espagnols et les Argentins.
Cancoyotes, c'est un mets-bains fort contoué, tout en dansant la cave.
Et voilà, ça se passe dans le cadre de la fête des sports de l'US Larian Munan. Pendant 10 minutes, les 9 candidats triés sur le volet vont s'affronter à celui ou celle qui mangera le plus de pots à la petite cuillère. Le record actuel, c'est de 11 pots de 250 grammes en 10 minutes.
Non, mais c'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Attention, en plus, il y a une note artistique. Il faut manger proprement, hein, ce qui est un défi en soi, parce que la cancoyotte, c'est délicieux, mais honnêtement, ça coule pas mal. Voilà pourquoi les candidats ont dû envoyer une vidéo pour prouver qu'ils étaient rapides, mais qu'ils n'en mettaient pas partout, parce que les producteurs de cancoyotte n'ont pas envie de dégrader l'image de leur fromage. Alors, vous savez, la cancoyotte, ça connaît un énorme succès, notamment grâce aux réseaux sociaux. Les ventes ont progressé de 35% en 8 ans. On attend maintenant le nouveau champion du monde. Juste pour galéger, j'espère que Lionel Messi et Lamine Yamal ne vont pas nous en faire tout un fromage de cette Coupe du Monde-là.
On nous aura pas sur le fromage. Ça, on nous aura pas. Mathias, c'est à vous.
Il fait un peu moins chaud, et puisqu'on aura mangé autant de cancoyotes, on va aller faire un petit tour à la salle de sport ce matin. En étant en Allemagne, il n'y avait pas plus près, hein, direction l'une des salles du réseau John Reed, là où s'entraîne Eda Pils depuis 4 ans. Eda Pils, c'est une influenceuse, elle a 25 ans. Enfin, c'est là où elle s'entraînait parce que la jeune femme vient d'annoncer à sa communauté que son abonnement a été résilié sans préavis.
Ah mince.
La raison, excès de selfies. De nombreuses plaintes ont été déposées par les clients, visiblement dérangés par ces sessions d'auto-shooting. Et pour elle, c'est évidemment un complot, hein, la faute à ces autres femmes jalouses qui sont senties provoquées par ce photo devant le miroir. Elle dit d'ailleurs, c'est bizarre, tiens, le compte de John Reed republie même les photos des autres membres devant le miroir. C'est quand même trop injuste. Peine un petit peu sévère puisqu'elle est coupée d'une interdiction d'accès illimitée pour toutes les salles en Allemagne, mais aussi dans le monde. Si elle veut rester dans le réseau, il faut qu'elle aille en Suisse. Là, c'est possible. Hein. Pas de soucis. Bon, sinon, elle pourra
toujours notre, faire... Toujours la Suisse là-dessus.
Exactement. Sinon, l'autre option, c'est les replays de Véronique et Davina à la télé.
Ben oui, ça peut être pas mal aussi. C'est toujours aussi bien. Merci beaucoup, Mathias Luguin. Il est 5h23. Les astuces conso dans un instant, mais avant ça, Virginie, vous nous rappelez les 3 grands titres de l'actualité.
Des dégâts importants après le passage d'une tornade au nord de Saint-Étienne, des bâtiments endommagés, des camions renversés sur l'autoroute A12, 600 interventions de pompiers et 8000 foyers sans électricité. Il y a aussi des dégâts en Isère. Les fouilles se poursuivent dans le Tarn. Hier, des ossements ont été trouvés par les enquêteurs sur les indications de Cédric Jubilard. Ils vont être analysés, des ossements qui pourraient être ceux de son épouse Delphine, bien sûr. Cédric Jubilard a renouvelé ses aveux devant le juge. Il a bien tué sa femme en 2020. Et puis une troisième victoire d'étape pour le Belge Tim Merlier hier à Chalon-sur-Saône sur le Tour de France. Il s'impose dans un sprint massif marqué par la chute de plusieurs coureurs.
Il est 5h23 sur RMC.
RMC, la solution conso.
Anthony Kaczmarek, ce vendredi marque le début d'une nouvelle vague de départs en vacances, évidemment. Affluence en vue dans les campings notamment, où se rendent en moyenne 30% des vacanciers. Et même au camping, on peut faire des économies.
Alors, on n'attend pas Patrick ?
C'est sûr. On vous attend Patrick.
Cette matinale me plaît, ce morning est incroyable.
Alors, économie d'abord en réservant son séjour. Si ce n'est pas encore fait, pas de panique, il reste des offres de dernière minute. -20 à -70% si vous partez dès ce week-end. Alors vite, vite, préparez les valises. Ces offres sont disponibles sur tous les sites web classiques de réservation de vacances, mais aussi sur des sites spécialisés comme Home Air, VVF ou Yellow Village. Si vous ne trouvez pas tongs à votre orteil, le plus simple, c'est d'attendre et de partir hors saison début septembre. Et là, vous paierez moins cher et l'hébergement et certaines activités touristiques.
Alors, on va essayer de trouver tongs à notre orteil. Donc, le choix du camping, c'est sans doute l'élément le plus important.
Bah oui, et le bon plan, c'est de partir moins loin pour payer moins de carburant et aussi peut-être pouvoir partir aussi plus longtemps. Ensuite, parmi les options les plus intéressantes, il y a la campagne où les hébergements sont plus abordables, au calme, dans la nature. Les campings en montagne ou autour des lacs sont aussi de bonnes options avec des activités tout aussi intéressantes qu'en bord de mer. Mais si vraiment vous voulez voir la mer, privilégiez des petites stations balnéaires moins touristiques et plus accessible financièrement que les grandes. Certaines régions sont aussi plus abordables que les autres, par exemple Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon.
Et une fois sur place et la tente plantée, on peut encore réserver son porte-monnaie.
Oui, vous faites bien de préciser la tente, car effectivement, c'est le mode d'hébergement le moins cher, comparé au mobil-home, yourte ou autre cabane dans les arbres. Il existe même des tentes gonflables maintenant pour les flemmards, encore plus simples à monter que celles que l'on jette en l'air, dès 130 euros pour les grands modèles familiaux.
Ouais, quand même.
Donc c'est bon, c'est une somme quand même. Pour dépenser moins, on choisit des activités gratuites. Bah oui, se baigner au lac, faire des randonnées, ou encore des concerts ou des cinémas en plein air parfois proposés gratuitement par certains campings. Pour les repas, prévoyez certaines courses avant le départ, parce qu'en zone touristique, les produits sont souvent plus chers. Planifiez vos repas et achetez des produits locaux de saison sur les marchés de producteurs. Préparez aussi des encas pour les longues balades. Enfin, si vous en avez besoin, outre la tente, eh bien prenez du matériel de camping d'occasion. Évidemment, c'est moins cher. Par exemple, pour le réchaud, pour réchauffer vos boîtes de conserve.
Astis, parfum bleu.
Astis, délicieux.
Surtout.
Non mais comment on reprend après? C'est pas facile, voilà, merci Anthony, la solution conso, c'est tous les jours sur RMC, le matin dans le morning, et puis quand vous le voulez, évidemment, en podcast.
Allez, dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demanche, et surtout vous, au 32-16, à tout de suite.
5h-7h
5-7, le morning RMC.
Virginie Fulpin, Victor Fourchet.
5h28 sur RMC, je vous rappelle qu'on joue au mot caché, ce mot qui sort de l'ordinaire et qu'on a prononcé déjà dans le morning. Si vous pensez l'avoir identifié, vous envoyez mot au 732-16, MOT au 732-16 pour tenter de remporter votre Coffee Bird, la machine expresso nomade d'Aquila.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Le mot caché sur RMC avec la machine expresso Coffee Bird d'Aquila, qui vous sert un excellent café vraiment partout. Aquila, vivez l'aventure sans limite.
Le meilleur d'Arnaud Demange, c'est tout à l'heure dans Apolline Matin, mais comme on aime bien galéger, on se met tout de suite dans l'ambiance.
Allez, un petit peu de douceur, le parc Astérix qui va ouvrir ses portes en Allemagne.
Ah, Astérix, là. Pour une fois qu'on arrive à exporter un truc aux Allemands. Alors, ce sera le parc Astérix, comme en France, mais avec des clients qui ont du pouvoir d'achat.
Ah oui,
il va changer beaucoup de choses. Ils adorent Astérix en Allemagne. Et c'est vrai qu'Astérix, avec sa moustache jaune, son casque, son pantalon rouge, tu lui rajoutes des bretelles, c'est un petit bavarois. Alors dans la version allemande, il y a quand même des différences.
Olixia, nous devons aller à Rome. Fini de tailler ton menhir.
J'arrive, Astérix. Je ne taille pas un menhir, je détruis un mur à Berlin. Il est fixe. Kommen Sie. Oh, Idéfix, petit bébé, mon berger allemand de 130
kilos. C'est ça, il n'avait pas l'air d'avoir Idéfix, là, je ne sentais pas, voilà.
Allez, Obélix, enfile tes sandales, chaussettes. Je vais voir le druide pour qu'il me donne une ration de choucroute magique.
Je peux en avoir.
Non, tu es déjà tombé dans le tonneau de schnapps quand tu étais petit.
Allez, on retrouvera Arnaud Demanche à 8h20 tout à l'heure dans Apolline Matin. Mais d'abord, la météo. Anthony Kaczmarek avec ses risques d'orages.
Oui, des orages qui risquent encore d'éclater dès ce matin vers le bassin parisien, la Champagne-Ardenne, et cet après-midi sur une bonne moitié est du pays encore. Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Limousin. Logiquement, ils seront beaucoup moins forts qu'hier. Ce matin, il y a pas mal de grisailles aussi avec quelques gouttes dans le sud-ouest, des brouillards en Bretagne, en Normandie, en Pays de la Loire. Ça va se dissiper cet après-midi et vous aurez même un très beau soleil sur le Finistère, sur la Côte d'Opale, vers le Boulonnais et dans tout le quart sud-est où Mistral et Tramontane vont se remettre à souffler, renforçant le risque de feux de forêt. La canicule se rétracte d'ailleurs vers le sud-est où vous aurez 31 à 36 degrés cet après-midi, mais ailleurs ce sera très agréable, 22 à 28 au nord et 25 à 30 sur le reste de la moitié sud.
Il est 5h30 sur RMC.
5-7, le morning RMC.
Et à 5h30, c'est l'heure d'accueillir Thibaut Texer pour le journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Victor, bonjour Virginie, bonjour à tous.
De violents orages donc frappent le centre-est.
Toitures arrachées, bâtiments endommagés, camions retournés. Les dégâts sont nombreux dans la Loire, en Isère aussi, sans faire de blessés. La vigilance est levée ce matin. Un acte abominable, les regrets de Cédric Jubilard passé aux aveux devant les juges. Il reconnaît la mort de sa femme Delphine et délivre les lieux où il aurait déposé le corps. Des ossements y ont été retrouvés. Et puis les Français vont-ils enfin lever les bras sur la route du Tour? L'étape du jour pourrait être la bonne.
8000 foyers sont privés d'électricité ce matin dans la Loire.
Conséquence des orages qui ont encore une fois balayé une partie du centre-est hier. Pluie, foudre, vent, grêle et même une tornade au nord de Saint-Étienne dans la ville de Villars. Les dégâts sont importants. Philippine Boulet.
La tornade, Seigneur.
Face aux rafales, la voiture de Mathis tremble.
Ça faisait des tourbillons et c'était vraiment, vraiment très, très local. Et c'est surtout à la puissance que ça avait, que ça arrachait les panneaux, que ça a coupé un arbre en deux.
Au point de tout emporter.
juste à enlever le barnage de l'Intermarché qui était juste à côté.
Ça a couché deux poids lourds sur l'autoroute juste au-dessus.
Joris habite à Villars, commune traversée par la tornade. Après son passage, sa rue est méconnaissable.
Ça a arraché toutes les poubelles, ça les a toutes mises sur la route. Après, on a tout ce qui est feuilles, poussière ou même des détritus qu'on peut retrouver un peu de partout. Des tuiles qui ont fini sur la rue en bas de chez moi. J'ai des voisins qui ont eu des toitures arrachées.
C'est le cas d'Anne-Sophie, elle vit à quelques rues de là.
On se sent impuissant, tout notre extérieur est dévasté.
Le vent a emporté le toit de sa résidence.
Pour nous, c'était inenvisageable que le toit de notre bâtiment s'arrache. Il a même pas 2 ans. Le camion de mon mari, il y a un bout de toiture sur le camion.
Tous les habitants de la résidence ont été relogés par la mairie, au moins pour la nuit dernière.
Et la vigilance aux orages est désormais levée, à l'inverse de l'alerte aux incendies dans 7 départements à Fontainebleau. Deux nouvelles personnes ont été mises en examen hier, placées sous contrôle judiciaire pour déclenchement involontaire du feu. Il s'agit d'ouvriers d'une société de travaux. Fermée en raison de l'incendie depuis dimanche, la portion de l'autoroute A6 a pu rouvrir hier soir. Bonne nouvelle en ce jour de départ en vacances. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs sur une bonne partie de l'Est. C'est orange sur le reste du pays.
Il est 5h32 sur RMC et c'est peut-être l'épilogue d'un mystère vieux de plus de 5 ans.
Des ossements retrouvés hier dans le Tarn sur les lieux indiqués par Cédric Jubilard. Des analyses doivent être menées afin de savoir s'il s'agit du corps de sa femme Delphine, disparue depuis décembre 2020 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. L'ancien peintre plaquiste a confirmé devant les juges sa responsabilité dans la mort de sa femme, avouant un passage à l'acte totalement irréfléchi qu'il regrette, selon son avocat maître Pierre de Buisson.
Il a fait des déclarations spontanées, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de lui poser la moindre question. Et à travers ces déclarations spontanées, il a déroulé le fil de cette soirée. Il a expliqué précisément ce qui s'était passé, quel était le contexte dans lequel cet acte abominable, et là je le cite, c'est lui qui parle d'un acte abominable, a été commis par Cédric Jubilard. Comment il a déplacé le corps de son épouse et dans quelles circonstances il a enseveli le corps. Il a coopéré et collaboré entièrement avec la justice, comme les magistrats l'ont d'ailleurs rappelé. Et ça, c'est une très bonne chose, encore une fois, pour la vérité.
Et les fouilles vont reprendre ce matin sur la commune de Mayac. Un manque de moyens, des délais excessifs, un deuxième rapport d'inspection étrit encore une fois l'enquête concernant les précédentes accusations de viol sur mineurs contre Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Liana, mis en examen pour meurtre dans ce dossier. 18 ans de réclusion criminelle, condamnation hier d'un collégien de 15 ans reconnu coupable de la mort de Mélanie, cette surveillante d'un collège de Haute-Marne qui avait été poignardée l'an dernier.
Une question ce matin, après les scandales à répétition dans le périscolaire, faut-il rendre publique l'identité des animateurs ?
C'est en tout cas ce que réclame le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray. La mesure initialement prévue dans le projet de loi sur la protection des enfants en débat en ce moment à l'Assemblée nationale a finalement été retirée en raison, Caroline Redeau, de nombreuses réticences.
Deux animateurs mis en cause pour violences sexuelles dans l'école de sa fille. Clémence a dû avoir cette conversation douloureuse avec son enfant.
Je vois pas comment je pourrais parler à ma fille si j'ai pas un prénom.
Une identité qui lui a été transmise par des parents. C'est grâce à ça qu'elle a pu avoir des réponses.
Pour poser les questions les plus ouvertes possibles, en fait, il faut pouvoir dire est-ce que tu te souviens de tel animateur, est-ce que tu l'aimais bien, et puis l'enfant parle.
Dans cette école parisienne, plusieurs parents ont ainsi pu porter plainte contre les animateurs, mais tous n'ont pas cette possibilité.
À défaut de ces noms, il y a toujours des parents qui sont obligés de porter plainte contre X.
Anne, cofondatrice du collectif SOS Périscolaire.
Évidemment, les auditions ne peuvent pas être menées quand on ne sait pas à qui on a affaire, pour pouvoir aussi avoir des recoupements sur les précédents passages dans d'autres écoles ou pour rechercher des victimes.
Mais pour Éric Leclerc, délégué du syndicat d'animateurs SUPAP FSU, il en va de la sécurité du personnel.
On sait très bien qu'avec un nom de famille, on peut retrouver des personnes. Des personnes peuvent être embêtées ou harcelées, notamment sur les réseaux sociaux, physiquement par des parents, dans la rue, à son domicile, etc.
Selon lui, connaître le prénom et les qualifications des agents devrait suffire à garantir plus de transparence.
Un sénateur et député s'accordent sur le projet de loi d'urgence agricole, texte contesté en raison de la réintroduction de pesticides jusque-là interdits qui doit encore passer l'étape d'un vote lundi à l'Assemblée nationale. Et puis à Bernard Cazeneuve se lance, candidat à gauche pour la présidentielle, l'ancien Premier ministre de François Hollande le dit dans un entretien aux Parisiens ce matin, écartant l'idée d'un passage par la case primaire.
Tim Merlier a encore prouvé qu'il était le meilleur sprinter du peloton sur la route du Tour.
Vainqueur pour la troisième fois hier à Chalon-sur-Saône, place au Baroudeur aujourd'hui pour l'étape la plus longue de ce Tour. 205 km entre Dole et Belfort, un parcours accidenté qui pourrait convenir aux coureurs tricolores toujours en quête, Kevin Morand, d'une première victoire.
Oui, et après des premiers jours compliqués, le champion de France, Romain Grégoire, a retrouvé sa forme. Le franc-comtois sera sur ses terres aujourd'hui.
Ouais, ça donne une motivation supplémentaire. Je connaîtrai un peu les routes, en plus, surtout sur les 50 premiers kilomètres que je connaîtrai par cœur. Dans le Ballon d'Alsace, c'est sûr qu'il y aura un peu de monde. Je vais essayer d'en profiter et de me montrer, parce que ça peut être encore une étape qui peut s'ouvrir aux échappées.
Le profit de cette étape, plate jusque dans les 50 derniers kilomètres avec deux ascensions, dont le Ballon d'Alsace, rend le scénario du jour incertain pour Kevin Vauquelin.
C'est une étape qui peut être piégeuse. On peut avoir vachement de mal à pouvoir faire un pronostic, hein. Est-ce qu'il y aura un échappé, est-ce qu'il y en aura pas? Qu'est-ce que veulent les sprinteurs, que veulent les baroudeurs? On a aussi l'image de Mathieu Van Der Poel. Beaucoup de coureurs qui, je pense, sont aussi revanchards, mais je pense qu'on peut aussi rebattre les cartes.
Seuls deux des 12 étapes jusque-là ont réussi à un coureur parti en échappé. Les occasions se font rares. Jordan Zegat ne veut pas la laisser passer.
Il peut avoir une opportunité pour une belle échappée. Maintenant, c'est un départ sur le plat, donc il faudra être quand même un petit peu chanceux pour être devant. L'idéal, ce serait d'être accompagné de bons équipiers à moi, faire une belle montée et basculer dans un petit groupe et jouer la victoire, quoi.
Ce final d'étape escarpé sera un avant-goût des deux jours suivants plus difficiles, des Vosges jusqu'aux Alpes.
Et en attendant la 13e étape du Tour de France, à vivre dès 14h sur RMC.
Et ce qu'on vivra demain soir, 23h, c'est la petite finale de la Coupe du Monde, France-Angleterre. Mais c'est toute la question qu'on vous pose ce matin dans le morning. Est-ce que vous êtes encore d'humeur? Est-ce que vous avez encore le cœur à suivre cette équipe de France pour ce match pour la 3e place? Alors oui, c'est un beau match, c'est un France-Angleterre. Oui, c'est la dernière de Didier Deschamps, mais c'est vrai qu'on a pris un gros coup sur la caboche, comme on dit, avec cette défaite contre l'Espagne. Vous nous dites au 32-16 dans quel état d'esprit vous êtes et si vous allez suivre cette petite finale. Vous envoyez aussi vos messages au 06 12 424 424 sur le WhatsApp RMC. Les courses, c'est à Cabourg aujourd'hui.
Et c'est en nocturne à 20h15, le 8 Carnacoud est le favori de la Dream Team RMC. Outsider. C'est l'As Express Dark, le 8 hélas.
C'était le journal de Thibaut Texer. Merci Thibaut. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 6h sur RMC. D'ici là, un détour par le 32-16. Vous en avez l'habitude pour retrouver David. Bonjour David.
Bonjour David.
Vous Bonjour. Nous appelez d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques et vous êtes maraîcher bio. Et ça nous intéresse forcément beaucoup. Aujourd'hui, on parlait de cette loi, c'est la forme finale de la loi d'urgence agricole qui a été dessinée hier en commission mixte paritaire. Vous avez vu, j'imagine, hein, David, les deux grands enseignements de cette forme finale de la loi avec des assouplissements sur la gestion de l'eau et la réintroduction de deux pesticides interdits en France mais pas en Europe. Qu'en avez-vous pensez-vous?
Ben, que du mal. L'eau et les insectes butineurs, c'est des maillons essentiels de la vie sur Terre. Rien que ça. Et les néonicotinoïdes, ça désingue les abeilles, ça désingue tous les insectes butineurs. Mmh. Derrière cette autorisation, il y a quoi? Il y a le lobbying, notamment de la betterave sucrière. On a un problème sanitaire majeur en France, c'est l'obésité. On bouffe trop de sucre. Il y a trop de sucre dans les produits agro-industriels. Mais au nom du profit immédiat, eh ben on va rebalancer des néonicotinoïdes avec l'excuse que ben les autres, ils le font. Ouais, mais Poutine, il fait la guerre. On va pas la faire, nous.
Mais David,
c'est pas un bon argument, ça.
David, vous avez des, j'allais dire, je ne sais pas comment on dit chez les agriculteurs, j'allais dire des confrères.
Oui.
Vous avez en tout cas des collègues. Est-ce que vous en parlez avec eux? Est-ce que certains vous répondre, oui, mais vous êtes bien gentil, David, t'es bien gentil, David, mais moi, j'en ai besoin de ces pesticides-là pour ma rentabilité. C'est souvent le mot qui revient dans la bouche, notamment de la FNSEA.
Oui, mais justement, c'est ce que je disais, la rentabilité, ça ne peut pas être... Enfin, là, on y est, là. Le réchauffement climatique, ça fait 40 ans qu'on en parle, ça fait 40 ans qu'on dit que les écolos nous font chier parce qu'ils disent, voilà. Là, on y est, c'est que le début. La rentabilité, à un moment... Quand on va plus pouvoir rien faire, en fait, je veux dire, avec le climat qu'on nous promet là, s'il y a l'Andalousie partout en France, on va produire quoi? Elle va être où, la rentabilité agricole? On ne sera pas plus avancé. Et la gestion de l'eau, c'est pareil. Les grandes bassines, parce qu'en fait, c'est ça qui est derrière, les grandes bassines. Et ouais. Alors, comme on ne communique pas bien, je ne parle pas de vous, hein, mais on le fait exprès, on nous dit, oui, mais il faut stocker l'eau qui tombe l'hiver. Mais les grandes bassines, c'est pas ça. Hein. On va chercher l'eau qui est gentiment descendue, se stocker toute seule dans le sol et qui est très importante. On la fout à l'air libre, on la privatise pour 4 agriculteurs. Pour faire quoi? Pour produire du maïs, notamment, qu'on exporte en Chine et ailleurs. Donc on est contre le Mercosur, on veut pas que la viande produite en Argentine elle vienne chez nous, mais nous on veut faire du maïs qu'on envoie à l'autre bout du monde. C'est complètement n'importe quoi, on marche sur la tête.
David,
on marche totalement sur la tête.
David, si, parce que souvent on oppose ces arguments-là, en tout cas les opposants au texte opposent ces arguments-là, notamment au syndicat de la FNSEA, mais ça a pas la même portée quand c'est pas du même métier. Vous êtes maraîcher bio, vous avez la FNSEA devant vous, qu'est-ce que vous lui dites?
Ben, je lui dis que moi, je suis un petit maraîcher bio, je suis dans le sud-ouest, je suis en limite d'une zone humide, et j'ai pas assez d'eau pour arroser mes légumes cette année. Il faut arrêter là. Il faut arrêter de faire n'importe quoi, vraiment.
Et on entend en tout cas votre alerte ce matin, David. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin, David Maréchébio, donc à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça vous fait réagir ce témoignage. Vous composez le 32-16 et vous envoyez vos messages sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Il est 5h41. Dans un instant, on va parler du mondial. Mais on va parler de quoi, Virginie, sur ce mondial?
Alors, je crois qu'on peut faire un constat, alors que cette Coupe du Monde arrive à sa fin. C'est que les Français sont mauvais perdants. Je sais, c'est pas l'info du siècle. On avait une petite idée là-dessus, mais on en a une preuve de plus.
Et on verra ça. Et puis à 5h50, vous y avez peut-être joué au lycée ou lors de soirées festives. Le beer pong devient une vraie discipline avec même un championnat. Edgar Moreau, coordinateur de la Beer Pong League France, est notre invité ce matin. Il nous dira comment devenir un véritable pro.
Allez, vous restez là avec nous. On revient dans un instant sur RMC. À tout de suite.
5-7, le Morning RMC.
Virginie Fulpin, Victor Pourchet.
Bon réveil à tous à l'écoute d'RMC, il est tout juste 5h44.
RMC,
le Mondial de Virginie.
Eh oui, on en continue d'en parler de cette Coupe du Monde malgré l'élimination en demi-finale de l'équipe de France. Justement Virginie, alors il paraîtrait que les Français sont mauvais perdants.
Fake news ! Non, pas du tout. Bon, en fait, il y a des supporters français qui ont lancé une pétition pour faire rejouer la demi-finale France-Espagne.
Oui, j'ai
signé. Tout simplement, ben oui, parce que il se trouve qu'il y a eu une triche. Ils estiment que la main de Lamine Yamal aurait dû être sifflée avant le pénalty. Je vous remets un peu dans l'ambiance. En fait, Lucas Digne a fait une grosse faute, on peut le dire, sur Lamine Yamal, ce qui a amené donc au pénalty, au premier but de l'Espagne. Mais avant, il y avait peut-être une main. Enfin bon, disons qu'on peut s'attarder là-dessus, hein, c'est vrai, mais je crois quand même qu'il n'y avait pas photo entre les deux équipes ce jour-là. Et pourtant, cette pétition, ben, elle dépasse les 50 000 signatures. Allez, tous ensemble, on va se dire, c'est pas grave, la France est éliminée. De toute façon, je vais vous dire, Victor, c'est peut-être pas plus mal de pas la jouer, cette finale. Ben, parce qu'en fait, y a des gros incendies, vous savez, en ce moment, au Canada, qu'il y a des répercussions sur la qualité de l'air dans le nord des États-Unis. Par exemple, là, hier, il devait y avoir un match de football, d'ailleurs, qui n'avait rien à voir avec la Coupe du Monde, mais un match de football à Chicago, dans l'Illinois. Et ce match, il a été annulé. Et là, en fait, les fumées toxiques, hein, on peut le dire, qui arrivent à New York. Bah donc, si ça se trouve, elle va être annulée carrément, cette finale de Coupe du Monde dimanche. Alors, cette finale, vous savez, c'est donc Argentine-Espagne. Je remue le couteau dans la tête.
Oui, ça fait mal.
Argentine-Espagne. Et en fait, aux États-Unis, il y a vraiment deux camps chez les Américains. Deux camps politiques. Ah. Selon ce qu'on vote, bah, on choisit pas la même équipe à supporter pour... allez, Victor, devinez.
J'imagine que si on est plutôt conservateur, ce sera, je sais pas, l'Argentine.
Voilà, les Républicains veulent voir l'Argentine gagner, peut-être parce que Javier Milei est assez proche de Donald Trump, ça peut être ça. Et puis les démocrates, eux, sont plutôt pour l'Espagne, peut-être aussi parce que le gouvernement espagnol est plus proche de la tendance démocrate. En tout cas, c'est assez fou de voir à quel point, même pour une finale de Coupe du Monde entre deux pays qui ne sont pas les États-Unis, le vote américain peut jouer. France-Angleterre, on va quand même en parler. C'est pas la finale, c'est la petite finale. Là, il y aura pas de risque, vous savez, pour ces feux dont on parlait au Canada, puisque cette petite finale samedi soir à 23h, je le répète, elle se joue à Miami. Donc là, les fumées toxiques, elles vont pas aller jusque-là du Canada. Personne n'a envie de la jouer, en fait, cette petite finale. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Tuchel qui est le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Hier, on lui demandait, mais alors, comment ça va se passer cette finale? Et en gros, c'était, mais de toute façon, on n'a pas envie de la jouer. Mais demandez aux joueurs français, ils n'ont pas envie de la jouer non plus. Et moi, je me demandais, Victor, est-ce que vous allez la regarder, cette finale?
Je pense que je vais avoir un petit peu de mal, et évidemment, à la regarder. Il y a encore beaucoup d'émotions, il y a encore beaucoup de... j'allais dire de rancœur envers le football, en fait. On a l'impression d'avoir été trahi. On va justement demander à Jordan, qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Jordan.
Bonjour Jordan.
Bonjour équipe.
Bon Jordan, vous nous appelez de Robion dans le Vaucluse. Vous avez été comme nous très touché, j'imagine, par l'élimination. Est-ce que vous allez la regarder, cette petite finale?
Je vais très bien dormir. que je peux vous dire.
Non mais vraiment, ça a été annulé pour vous. C'est hors de question de pouvoir le faire.
Non. En fait, je sais pas. Il y avait tellement trop d'espoir. Peut-être c'était ça qui fait encore plus mal, c'est qu'on se voyait vraiment la gagner cette Coupe du Monde. Et là, je me dis non. En fait, c'est mort. En fait, et la finale encore moins. Quand j'ai vu l'affiche, c'est encore moins. Je la regarderai. Quoi, c'est sûr. Hein.
Vous avez écrit un message, alors ça m'a fait un peu sourire, mais on est dans la même douleur. Vous nous avez dit, excusez-moi, je suis encore en deuil. C'est vrai que c'est des émotions assez fortes, négatives, mais fortes. On se sent vraiment un peu tous mal depuis quelques jours.
Ah mais oui, clairement. Mais en plus, ce qui me fait encore plus mal, c'est que c'était la première Coupe du Monde que suivait mon fils, qui va avoir 5 ans.
Ouais.
Et donc, du coup, je voulais tellement vivre ça avec lui, aller jusqu'au bout. Et en fait, non, ça m'a...
Mais c'est déjà une demi-finale, on peut se dire ça pour votre fils, c'est déjà bien.
Ouais, c'est déjà ça, mais bon.
J'essaie de me consoler comme je peux et de vous consoler.
Bon, merci beaucoup en tout cas, Jordan. Et puis bon courage. On va tous se remettre ensemble. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis vous serez à l'écoute d'RMC demain soir 23h pour suivre ce match. Virginie, on revient à cette chronique du mondial. William Saliba, cette petite finale, le défenseur français, il la jouera pas.
Hein. Ah ben, il risque pas de la jouer. Et ça, c'est une info RMC Sport. Il a joué le défenseur toute la Coupe du Monde avec une fracture du dos. Je sais pas si on imagine bien cette blessure. Il l'avait contractée avec son club Arsenal bien avant la Coupe du Monde, donc ça veut dire que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il a joué comme ça. On se souvient qu'il s'est écroulé au bout d'une demi-heure lors de la demi-finale contre l'Espagne. Alors, petite finale, grande finale, et grand show à la mi-temps hein, dimanche à New York, avec entre autres Madonna. Argentine-Espagne, ça tombe bien, la chanteuse, elle s'est intéressée aux deux pays dans sa carrière. D'abord dans la bande originale du film Evita, où elle jouait Eva Perón, la femme de l'ancien dictateur argentin. Don't cry for me, Argentina. The truth is, je suis pas sûre qu'elle chante ça dimanche, je vais vous le dire. Et puis dans les années 80, elle s'était aussi intéressée à l'Espagne, puisqu'elle avait enfilé sa tenue de flamenco. Et alors là, comment on fait? Je demande à Victor ce qu'il choisit entre les deux musiques pour savoir quel pays il va choisir pour la finale.
Moi, je préfère la deuxième. Allez, la deuxième. Ça vous donne une petite indication. Merci beaucoup, Virginie, pour cette chronique du mondial, le mondial de Virginie. Il est 5h50. On va pas jouer la petite finale, nous. Mais on va jouer au mot caché, ce mot qui sort de l'ordinaire que vous avez déjà entendu dans le morning ce matin pour identifier. Si vous avez identifié ce mot caché, vous envoyez mot MOT par texto au 7-32-16 et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner votre Coffee Bird. C'est la machine expresso nomade d'Aquila. Et à 5h50, dans un instant, c'est votre interview à votre service. Mais d'abord, les trois grands titres de l'actualité, Virginie.
Des ossements humains découverts dans le Tarn. Ils vont être analysés pour confirmer qu'il s'agit d'ossements de Delphine Jubilar. Cédric Jubilar a conduit les enquêteurs sur les lieux après avoir renouvelé ses aveux. C'est bien lui qui a tué son épouse fin 2020. L'électricité va coûter plus cher à partir du 1er août. Le gouvernement suit l'avis du régulateur de l'énergie qui propose une hausse de 2,5% des tarifs réglementés. Une troisième victoire d'étape pour le Belge Tim Merlier hier à Chalon-sur-Saône dans le Tour de France. Il s'impose dans un sprint massif marqué par la chute de plusieurs coureurs.
Et il est 5h51 sur RMC.
RMC, à votre service.
Vous prenez une table, vous prenez quelques gobelets et des balles de ping-pong. C'est tout ce dont vous avez besoin pour faire une partie de beer pong, ce jeu populaire dans les comédies américaines, les soirées étudiantes. Et figurez-vous qu'il tend à se professionnaliser.
Bonjour Edgar Moreau. Edgar
Bonjour
Moreau,
à vous.
Vous êtes le coordinateur de la Beer Pong League France. Avant de nous rappeler les règles, on va tout de suite évacuer une question importante. Il n'y a pas que de la bière hein, dans les verres.
Non, il n'y a pas que de la bière, c'est surtout de l'eau dans les verres. Donc on pourrait appeler ça finalement water pong,
Moi, c'est moins drôle.
Certains préfèrent. Non, c'est moins drôle, c'est vrai. Le beer pong, ça parle à plus de personnes.
Et alors, revenons-en aux règles. Comment ça se joue pour ceux qui n'auraient vraiment jamais entendu du beer pong? Expliquez-nous.
Ouais, le beer pong, c'est très très simple. Comme vous l'avez dit, vous prenez une table, vous mettez 10 gobelets d'un côté, 10 gobelets de l'autre, vous les remplissez un petit peu d'eau, et ça se joue généralement 2 contre 2, et l'objectif, c'est de mettre donc les balles de ping-pong que vous avez, vous en avez 2 par équipe, et qui se lancent donc tour à tour 2 balles dans les verres. Après, il y a plein de petites règles pour agrémenter tout ça. Par exemple, si le joueur numéro 1 lance la balle dans un verre et que le joueur numéro 2 lance la balle dans le même verre, ça fait 3 verres en moins. Et l'objectif, évidemment, vous l'aurez compris, c'est d'enlever tous les verres qu'il y a en face.
Alors, ce jeu, c'était l'univers des soirées étudiantes, notamment. Comment ce jeu a quitté les soirées étudiantes pour constituer une ligue? Comment vous avez eu cette idée?
On a tous déjà joué en fait au beer pong un peu dans notre, en tout cas dans notre génération, en soirée. Et au fur et à mesure qu'on y joue, on apprécie, on passe des bons moments, on kiffe bien en soirée. Et on s'est dit, mais en fait, il y a vraiment un truc à faire. Et c'est une discipline d'adresse comme une autre finalement, comme on peut retrouver par exemple avec le développement des fléchettes qu'on peut retrouver de plus en plus médiatisées à droite à gauche. Et tout simplement le plaisir du jeu. Donc en fait, ça part de soirées de garage ensemble, à droite à gauche, à organiser des tournois avec ses copains, à organiser ensuite des gros tournois avec des gens qu'on connaît pas. Et au final, maintenant, là, on est rendu à organiser les championnats d'Europe.
Les championnats d'Europe. Et vous avez développé le championnat de France. Hein. D'ailleurs, le prochain, il aura lieu du 4 au 6 septembre à 3. Comment on fait pour s'y qualifier là? Je sors de la matinale, je sors du morning. Comment je fais pour m'inscrire? Parce que j'ai un petit niveau, je vous le dis.
J'en ai aucun doute déjà. Je ne remettrai jamais en question votre niveau au beer pong. Alors pour s'inscrire, c'est pas très compliqué. Nous, en fait, on organise une saison d'octobre à juin. On est présent dans 44 villes en France, donc dans toutes les grandes villes de France. Il y a des tournois mensuels et chaque ligue, chaque ville a donc son propre classement. Et à la fin de la saison, en juin, nous, on offre des places aux 5 meilleures équipes. Donc voilà, il y a les 5 meilleures équipes de toutes les grandes villes de France qui sont qualifiées. Mais en plus de ça, au championnat de France, tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut prendre sa place. Voilà, c'est pas que les 5 meilleures équipes pour vraiment brasser un grand nombre de personnes et garder cet esprit convivial sans rentrer vraiment dans un élitisme du beer pong.
Alors, qui sont les joueurs de beer pong? Il y a un profil type?
Alors, on va dire que c'est encore beaucoup genré, on va dire, c'est très masculin. On essaye justement d'introduire des tournois mixtes, des tournois féminins pour pousser les filles à venir aussi dans les tournois. Donc c'est relativement genré masculin. Après, sur la tranche d'âge, on est plus sur du jeune actif, du 25-30, 25-35. Et après, vient évidemment toute la population étudiante, mais c'est plus du jeune actif que d'étudiants.
Alors, on va faire un double mixte, non? Victor.
Alors là, attention, l'équipe du morning, comment le championnat de France va être plié, moi je vous le dis. Edgar Moreau, qui dit ligue dit équipe de plus en plus prometteuse. Est-ce qu'il y a un Paris Saint-Germain du beer pong? Est-ce qu'il y a un Kylian Mbappé du beer pong?
Alors ouais, moi au lieu de l'appeler Kylian Mbappé, je l'appelle Dark Vador d'ailleurs, si jamais il écoutera cette émission en diffusée, ou alors s'il est avec nous en train de nous écouter. C'est Nicolas, il joue à Angers. Nicolas Ninus, c'est vraiment c'est le Dark Vador du beer pong français. Et en fait, il est tout simplement trop fort.
Et ça joue fort.
Il est trop fort. En fait, il fait peur. Dark Vador parce qu'il fait peur à tout le monde en fait. Il fait peur à tout le monde. Il devient vraiment le gars quand il arrive dans un tournoi beer pong, maintenant il est reconnu quoi. Il y a déjà des gens qui ont pris des photos avec lui. Lui, il est champion d'Europe en simple. Il est vice-champion d'Europe aussi en solo, en duo. Il est des champions de France avec l'équipe d'Angers. Il a été champion de France en duo, champion de France en solo.
Là, il y a du niveau, là. Il y a du niveau, mais figurez-vous que, on le défie. On le défie, en tout cas, le prochain championnat de France aura lieu du 4 au 6 septembre, je le rappelle, à 3. Merci Edgar Moreau. Je rappelle que vous êtes coordinateur de la Beer Pong League France. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin.
Il est 5h56 sur RMC. Tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
Arthur, 2000 hectares sont partis en fumée à Fontainebleau, un joyau du patrimoine français.
Oui, Fontainebleau, c'est une forêt de 22 000 hectares qui a vu défiler toute l'histoire de France, mais alors vraiment tout, puisque Fontainebleau abrite près de 2000 sites préhistoriques qui, pour certains, datent d'entre 9500 et 5000 avant Jésus-Christ. Sur ces sites, il y a des traces de silex et on a aussi retrouvé des outils ayant appartenu à des hommes préhistoriques.
La forêt de Fontainebleau, c'est la forêt des rois de France.
Et oui, c'est là qu'ils chassaient, c'était même un de leurs terrains de jeu préférés. Et là encore, ça date, puisque cette forêt est un des principaux domaines de chasse de nos rois depuis le Xe siècle. Ça va le rester jusqu'au XIXe. Plus tard, la monarchie organisera aussi des courses de chevaux dans la forêt. Et ils aimaient tellement Fontainebleau qu'au XVIe siècle, le roi François Ier transforme un relais de chasse en palais somptueux. Ce palais, ça sera donc le château de Fontainebleau Fontainebleau qu'on peut toujours visiter aujourd'hui.
C'est aussi le tout premier site protégé du monde.
Oui, puisque bon, Fontainebleau, c'est un site magnifique. Au 19e siècle, les peintres et les écrivains se passionnent pour la forêt. Du coup, ils demandent au gouvernement la création d'un espace naturel protégé. Et en 1861, donc il y a 165 ans, l'empereur Napoléon III leur accorde ce statut en créant une réserve artistique de plus de 1000 hectares au cœur de la forêt.
Génial.
Absolument. Et donc c'est la première réserve naturelle du monde, avant même les grands parcs américains comme Yellowstone. Et Napoléon III va en profiter pour interdire l'abattage des arbres de plus de 150 ans.
C'est un des sites les plus fréquentés d'Europe.
Mais oui, chaque année la forêt accueille entre 15 et 18 millions de visiteurs, ce qui en fait donc l'espace naturel le plus fréquenté de France. Un espace qu'on continue de protéger. En 1998, l'UNESCO a désigné la forêt de Fontainebleau comme une réserve de biosphère. Donc oui, ces incendies sont une catastrophe à tous les niveaux.